Vous êtes sur RTL.
Du matin.
RTL Matin, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Allez, bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et avant de développer les grands titres de l'actualité de ce dimanche et notamment les mesures exceptionnelles prises pour enrayer l'épidémie du coronavirus, lançons officiellement ce matin la Green Week sur RTL.
Et oui, pendant toute la semaine, les antennes du groupe M6 se mobilisent, vous proposent plus de 60 heures de programme en lien avec l'écologie et l'environnement. Et justement, nous vous dévoilons ce matin les résultats d'une grande enquête réalisée avec M6 Turbo sur les Français et l'écologie automobile. Un sondage Arisec Interactif qui démontre que la motivation est bien là pour passer au vert. Christophe Bourou, oui, mais...
D'un côté, les automobilistes ont de plus en plus la fibre écologique, puisque majoritairement, ils affirment que nos voitures doivent moins polluer, être plus vertueuses. Pour preuve, lorsqu'on leur demande quelle serait leur voiture idéale, sans limite de budget, eh bien près de 7 automobilistes sur 10 sont tentés par une voiture verte. Et c'est l'hybride qui a le plus la cote, 48%, devant l'électrique, 19%. Seulement voilà, dès qu'il s'agit de passer à la caisse, d'acheter, là, les intentions dégringolent de moitié, à 33%. Autrement dit, entre les bonnes intentions et la réalité, il y a un fossé. Car les Français pensent que les voitures vertes sont encore beaucoup trop chères. Le prix apparaît vraiment comme le frein majeur à l'achat d'un électrique pour quasiment la moitié des personnes interrogées, devant l'autonomie jugée encore bien insuffisante dans un tiers des cas et le nombre de bornes, 16%. Enfin, vous n'êtes pas tendre avec le nouveau malus puisque vous estimez que c'est une taxe davantage faite pour remplir les caisses de l'État que pour réellement sauver la planète.
Christophe Bourou pour RTL. A noter que l'émission Turbo à 11h20 sur M6 tout à l'heure évoquera ce sondage, tout comme sur notre antenne à 19h dans l'émission Autoradio.
Et vous avez les détails de cette fameuse Green Week sur RTL, bien sûr, sur notre site rtl.fr. Agnès, nous revenons évidemment sur les multiples mesures pour endiguer, mesures prises pour endiguer l'épidémie du coronavirus en Chine.
Oui, le coronavirus en Chine. Le dernier bilan fait état de 56 morts, plus de 2000 personnes contaminées. Effectivement, de nombreuses consignes sont données par les autorités, que ce soit à Wuhan, épicentre de l'épidémie. Mais pas seulement. Hein. Pékin se trouve à 1200 km de cette ville. Pour l'instant, pas de confinement obligatoire. Mais la capitale voit son quotidien totalement chamboulé, Stéphane Pombrand.
C'est une ville de 23 millions d'habitants qui vit au ralenti. Tous les sites touristiques à Pékin sont fermés au public, tout comme les cinémas et de nombreux centres commerciaux. Cette famille française s'organise pour ne plus avoir à sortir.
Alors j'ai fait des provisions, j'ai acheté à manger, j'ai acheté de l'eau, tout ce qu'il faut. Je pense qu'on peut tenir au moins une semaine sans sortir.
10 000 expatriés français vivent à Pékin et le lycée français accueille plus de 800 élèves. Il est pour l'instant fermé en raison des fêtes du Nouvel An chinois et devait rouvrir normalement mercredi prochain. Mais la rentrée pourrait être reportée de 3 semaines, des vacances forcées pour ne pas exposer les enfants au virus, des vacances pendant lesquelles les déplacements sont fortement déconseillés.
Le reportage de Stéphane Pombrand, correspondant de RTL à Pékin. À Shanghai, un premier mort a été recensé. Là aussi, la ville vit au ralenti avec de nombreuses structures fermées, tout comme à Hong Kong, où le parc Disneyland, par exemple, a décidé de fermer ses portes au public.
En France, Agnès, le dispositif semble efficace. On rappelle que 3 personnes sont toujours hospitalisées.
Infectées par le coronavirus, leur état de santé n'inspire plus aucune inquiétude. 2 sont à Paris, l'autre à Bordeaux. Les messages de prévention semblent bien fonctionner. Le dispositif est en place à l'aéroport de Roissy pour les vols arrivant de Chine. Alors bien sûr, il est très probable que de nouveaux cas soient détectés dans les jours à venir, mais aucune raison de céder à la psychose, c'est ce que répète le professeur Yazdan Pana, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat.
On a dit qu'il va y avoir des cas importés. Ce n'est pas une surprise, on savait, il y a un travail modélisation qui a été fait, qui montre qu'il va y avoir des cas. S'il y a des cas suspects, ce qu'il va y avoir, il faut progressivement qu'on installe une prise en charge ambulatoire. Ça veut dire voir les patients, faire le diagnostic rapidement Par contre, la probabilité d'une épidémie en France ou en Europe est extrêmement faible. Parce que justement, on a un dispositif pour contrôler l'épidémie qui marche, qui permet de détecter vraiment rapidement les patients, de les isoler et faire le diagnostic. Je pense qu'il ne faut pas céder à la panique du tout, hein.
Des propos recueillis par Vincent Serrano pour RTL. Le coronavirus, les mesures prises pour contrer une éventuelle épidémie chez nous. Il en sera évidemment question à midi puisqu'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, sera l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. Et il sera difficile d'éviter le sujet des municipales qui approchent à grands pas. À ce propos, sachez que Cédric Villani, candidat dissident de La République En Marche à Paris, sera reçu par Emmanuel Macron aujourd'hui ou demain. Cette semaine, le député affirmait sur notre antenne qu'il ne comptait pas se retirer, quoi qu'il arrive, hein, au profit de Benjamin Griveaux. Et puis, la ville de Montpellier veut porter plainte contre Nicole Belloubet. La garde des Sceaux a préféré choisir Toulouse pour implanter une nouvelle cour administrative d'appel. La mairie héraultaise l'accuse de prise illégale d'intérêts et de favoritisme.
Très bon réveil à vous tous. Vous restez bien avec nous dans un instant. La suite du journal d'Agnès Bonfillon avec un retour sur un coup de filet antiterroriste à Brest. 7 individus viennent d'être écroués. À tout de suite.
RTL 8h06, suite de RTL Matin, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
À Brest, Agnès, 7 hommes ont été mis en examen et écroués. Hier, ils sont suspectés d'avoir préparé un projet d'action violente.
Oui, interpellés lundi dernier, hein, lors d'un coup de filet antiterroriste. Ils étaient interrogés depuis au siège de la DGSI pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Parmi eux, un homme est au cœur de l'enquête, Thomas Proutot, soupçonné d'avoir appartenu au groupe État islamique. Que sait-on exactement sur lui pour l'instant ?
Eh bien, il s'agit d'un homme de 34 ans, arrivé en France en 2015, vraisemblablement au sein de la cohorte de centaines de milliers de migrants syriens qui viennent alors demander l'asile en Europe. Il obtient le statut de réfugié en France, et ce malgré le renforcement des contrôles effectués par les services de renseignement du fait des attentats. Mais le Syrien disparaît des radars et ne fait plus parler de lui jusqu'à lundi dernier. Les hommes de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, épaulés par les policiers du RAID, font irruption chez lui à 6h du matin après plusieurs semaines de surveillance. Dans son ordinateur, les enquêteurs retrouvent des tutoriels de fabrication d'explosifs récemment téléchargés, ainsi que des documents de propagande de l'État islamique. En parallèle, 6 complices présumés sont arrêtés, mais c'est le réfugié qui semble à ce stade au cœur du projet. Selon une source policière, le groupe envisageait de viser des rassemblements de masse en France.
Des informations signées Thomas Proutot du service police-justice de RTL. Toujours aucune nouvelle des 4 membres de SOS Chrétiens d'Orient, 3 Français et un Irakien qui se sont volatilisés à Bagdad mardi alors qu'ils se rendaient à l'ambassade pour faire renouveler leur passeport.
Les sports, Agnès, avec les 2 premiers qualifiés pour les quarts de finale de l'Open de tennis d'Australie.
Raonic et Djokovic ont décroché leur ticket. Le Canadien a battu Cilic en 3-7. Quant au Serbe, il n'a fait qu'une bouchée de l'Argentin Schwartzmann. On espère évidemment que Gaël Monfils accédera à cette étape du tournoi. Pour cela, on le rappelle, il devra battre Dominic Thiem. En foot, pas simple, cette 21e journée de Ligue 1 pour Monaco. Un désastre, assume même l'entraîneur, après la lourde défaite face à Strasbourg, 3-1. À Marseille, soirée décevante aussi, au Vélodrome, avec un 0 partout face à Angers. À noter la victoire de Saint-Étienne à Nîmes, 2-1. Exactement le même score pour Brest contre Amiens. Montpellier bat Dijon, 2-1. Et Metz est allé s'imposer à Reims, 1-0. 3 autres matchs ce dimanche, Lyon-Toulouse, Nantes-Bordeaux. Et le choc, Lille-PSG, ce sera à suivre en direct dans Soir de Ligue 1 sur RTL.
Hier, nous parlions du show à l'américaine à Bercy, vendredi pour un match de basket de NBA. Bah, va y avoir aussi du grand spectacle cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, Grand Prix d'Amérique oblige.
Cette épreuve mythique se déroule devant plus de 40 000 personnes. Et en plus, cette année, eh bien, elle fête son centenaire à 16h10, très exactement. Vous pourrez la suivre en direct sur sisplay.fr. 18 trotteurs vont tenter d'entrer dans la légende, une légende écrite il y a 20 ans tout juste par un cheval d'exception, peut-être le plus populaire en France, Général du Pommeau. Ce sacre sur ses terres dans le sud de la Manche, personne ne l'a oublié et la ferveur reste intacte, Julien Caillard.
Oui, dans ce bar de Saint-Jamin, Général Dupomo reste le sujet de conversation des turfistes.
Pour nous, c'était la fierté du coin. C'était un crack, à jamais dans nos têtes, c'était notre cheval.
Un cheval entré dans les cœurs en offrant l'Amérique à Saint-Jamin et à son entraîneur-driver, le regretté Jules Lepentier.
Général Dupomo est bien parti pour s'imposer, car Varenne ne peut réagir.
Il allait tellement vite qu'à l'entrée ligne droite, il a failli faire une faute.
Guillaume Bernier, le lad de Général Dupomo, n'a rien oublié.
Je me suis mis à crier à mes lignes droites, et après on est ailleurs. Tout le monde te saute dessus, tout le monde te félicite, c'est des grands moments. Et c'est devenu une légende, ouais.
Une légende populaire, Général a été le premier trotteur à disposer d'un fan club.
Parce que c'était un petit cheval, des petits propriétaires, un petit entraîneur quand même. Et puis il était vraiment brave, quoi. Les gens, ils l'aimaient. Il y avait tout le temps des tas de gens qui venaient pour le voir, faire des photos, enfin, c'était la vedette.
Une vedette dont parle depuis 20 ans Quentin Lepentier, le fils de Jules.
Ma maison à moi est remplie de souvenirs de Général. Ça fait partie de ma vie, on est très fiers de ce qu'a fait Général et mon père surtout. C'est avec plaisir que j'en parle tous les jours.
Désormais, Général ne vit plus à Saint-Jamin, mais à 26 ans, la légende est en pleine forme et c'est ici tout ce qui compte.
Avec une retraite bien méritée, le reportage de Julien Caillard pour RTL. Évidemment, la course cet après-midi est à 16h10 et vous pourrez la suivre en direct sur M6.
Et nous recevrons le nouveau président du Trot français tout à l'heure. Lui aussi a gagné d'ailleurs ce Grand Prix d'Amérique il y a 12 ans. C'est Jean-Pierre Barjon qui sera notre invité à 9h10. On va mesurer ensemble justement ce que représente ce Grand Prix d'Amérique. On vous aide pour ça si vous êtes joueur, si vous êtes parieur, c'est Vincennes.